Le livre prend la parole au sein de la très grande bibliothèque. Le livre de vin aussi prend la parole. Le vin tout court prend la parole. Il a même été versé dans les verres de notre cher public. Qu'est-ce que vous... Enfin, on va pas dire évidemment, puisqu'on va essayer de la jouer à l'aveugle. On peut dire que... raisonnablement que c'est un vin blanc, Antoine ?
Voilà, c'est un vin blanc. Mais voilà, pour introduire ce vin blanc, je vais vous raconter un peu le parcours de la construction de notre émission. Alors, François Régis me dit vos livres préférés sur le vin. Et c'est vrai, j'ai cette même passion du livre que vous avez sur le livre de cuisine, sur les livres de vin et de vigne. Alors, j'aurais pu vous amener Coulmel ou les ouvrages complets d'Olivier de Serres. Et puis, ou par exemple, ce que je vous ai amené là, le Marcel Lachiver, vin et vigne de vigneron.
Ah oui, c'est une référence.
Qui est une somme extraordinaire si on est passionné par l'histoire. Il vous fait aimer vraiment l'histoire du vin. Ou encore, si vous êtes un peu plus géographe dans l'âme, Roger Dion, Le paysage et la vigne. Oui. Voilà, ce sont deux grands ouvrages autour du vin. Et puis, en fin de compte, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais vous parler d'un beatnik du vin. Un garçon assez extraordinaire. Imaginez un Américain californien qui a traîné du côté de San Francisco dans les années 60. Et qui a pris le goût du voyage, mais un peu un Kerouac du verre à pied, qui est parti en Europe découvrir le vignoble français, italien, espagnol. Et ce garçon avait quand même un bagage intellectuel et culturel, et partout où il allait, il essayait de comprendre pourquoi certains vignobles avaient disparu, n'étaient plus à la mode, et lui, c'était un peu ces vignobles-là qui l'attiraient. Il s'appelle Kermit Lynch. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis, puisque c'est un grand importateur de vin en Californie. Et il a publié dans les années 90 cet ouvrage qui s'appelle « Mes aventures sur les routes du vin ». Et je vais vous lire déjà les quelques lignes d'une préface de son ami, son meilleur ami qui s'appelle Jim Harrison. Le célèbre romancier, et il dit voilà, Jim Harrison écrit « J'ai donc décidé d'améliorer ma connaissance du vin. J'ai lu Robert Parker. » Bof. Mais la grande découverte a été mes aventures sur les routes de Kermit Lynch. Je ne peux m'empêcher de penser à son propos, à propos de Kierkegaard, pour qui la pureté du cœur consiste à désirer ardemment une chose et une seule. Lynch est un obsessionnel. Pendant des années, il est allé sur les chemins de France, là où le menaient son nez et son palais en quête des objets du désir les plus purs, qu'ils soient modestes ou qu'ils vaillent une fortune. Et donc ça résume assez bien ce magnifique livre de voyage. Mmh. Et quand j'ai découvert ce livre publié en France en 95-96, il était tout à fait en phase avec ma découverte du vin, c'est-à-dire à la recherche des hommes, des paysages, du goût, plus que, on va dire, des étiquettes, des cadres un peu déjà pré-établis. Alors, pour illustrer son propos...
Vous nous rappelez juste, Antoine, pardon, pour les auditeurs que ça intéresserait, les références, est-ce que ce livre est encore édité d'ailleurs, Déborah Dupont?
Oui, c'est une petite bibliothèque Payot dans mes souvenirs. Exactement. Et effectivement, on le vend, enfin, ça fait partie des ventes récurrentes.
Alors, d'accord. Il est bientôt en rupture, j'ai passé un petit coup de fil chez Payot.
Le titre?
Mes aventures c'est sur ça. Les routes du vin, Kermit Lynch. Il est bientôt en rupture, mais ils m'ont garanti qu'ils le rééditaient pour le fin de printemps.
Joignons l'utile à l'agréable, une bouteille a été débouchée qui correspond un peu à, qui est, on va dire, la correspondance dans le verre de vos pages, des pages que vous évoquez, Antoine Gerbel. On fait un petit jeu, donc comme je le disais, on a versé ce vin blanc dans les verres de notre public. Est-ce que quelqu'un est prêt à se jeter à l'eau ou à se jeter dans le vin pour donner une petite idée de là où on pourrait être, monsieur?
Oui, bon, c'est un goût qui est inhabituel pour moi, très inhabituel. Alors j'essaye de le comparer à ce que je connais un peu. Moi je connais un peu les vins du Sud-Ouest. Ça ressemble pas du tout, par exemple, à certains vins très très fruités, etc. qu'on trouve là. Ça ressemblerait peut-être, si je reste toujours dans le Sud-Ouest, à quelque chose comme le Gaillac perlé. Mmh. Mais c'est un vin qui me semble-t-il qui a un peu vieilli. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne.
N'en dites pas trop, j'en Antoine. Pas on va. Est-ce que vous pouvez vous jeter sur une appellation ou un vignoble ou vous n'osez pas?
Non, j'ose pas.
Antoine, un petit commentaire. On passe le micro à quelqu'un d'autre.
Alors effectivement, on prend la route du Sud. On est effectivement, c'est un vin blanc du Sud, mais
ah, monsieur.
Alors René, au départ, j'ai pensé à du champagne, mais cette odeur.
C'est un peu perlant, tout à fait, oui.
Oui. Puis vient cette odeur d'abricot, de fruits orange, quelques fleurs blanches aussi, et au goût, le goût confirme cette impression. On a l'impression de goûter des abricots.
Oui, c'est vrai.
La fleur de sureau.
Il a raison, hein. Oui,
la fleur de sureau aussi. Oui, tout à fait. Oui.
Et on visualise bien, justement, ces abricots secs, ces fleurs blanches et oranges.
Tout ça ne nous dit pas où on est.
Mais je suis bien incapable
Non, mais c'est
de dire où on
c'est
se
un piège.
C'est hein, un piège, et oui, évidemment, évidemment, sinon ce serait trop facile.
Non. Donc, comme Kermit Lynch avait vraiment un goût de, on va dire, des terroirs à redécouvrir, là, je vous présente un vin de Clairette. La Clairette était un très vieux cépage du Languedoc qui a quasiment disparu, et pourtant, c'était une des premières appellations 1947 du Languedoc, de l'Hérault. Et là, on a la Clairette qui est issue d'une très vieille vigne signée par un vigneron qui s'appelle Heredia, Émile Heredia, qu'on a connu il y a quelques années dans la Loire. Il était notamment un des meilleurs producteurs du coteau du Vendômois. Il a pris ses clics et ses claques. Il est parti vivre une seconde vie du côté de Aspiran. Et cette Clairette, il a vraiment lu. Il a été, mais vous savez, lire sur l'histoire du vin au Languedoc, ça s'appelle rencontrer les personnes âgées. Il a été voir les vieux du village, mais comment on faisait la Clairette dans les années 30 ou 40? Parce que rien n'est écrit, malheureusement, sur ce vin. Il a reproduit exactement la méthode. Donc, vendanger assez tôt. C'est un raisin qui n'est pas lourd, qui n'est pas trop sucré. Il est très élégant. Vendanger sans soufre. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que
ce qui explique aussi le côté un peu
le
perlant.
Côté perlant, vraiment frisanté que vous avez sur la langue, une jolie acidité, et vous l'avez signalé, donc un côté abricot. Moi, je sens la poire, le seringa. Il y a vraiment quelque chose d'hyper floral dans ce vin.
Le budget, Antoine.
Alors le budget, sur internet, je l'ai trouvé à 13 euros, mm-hmm, ou chez certains cavistes parisiens à 16 euros. Voilà, c'est une très jolie image du Languedoc blanc qu'on imagine toujours un peu trop lourd et un peu trop sud dans leur expression.
Vous nous en rappelez les références?
Alors, ça s'appelle Un dimanche à la campagne. J'ai oublié de vous dire pourquoi, parce que tous ces vins font référence à des titres de films.
Ah.
Donc ça, c'est assez drôle.
Vigneron cinéphile.
Voilà, Émile Heredia, Clairette, 2013. C'est en vin de France. Voilà, c'est encore un vigneron qui a décidé de sortir un peu des appellations pour s'exprimer en toute liberté.